16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre. L'émission parfaite pour remettre son cerveau en route en compagnie d'un garçon dont le cerveau n'est pas l'atout majeur, mais qu'on aime malgré tout. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour, je vois que monsieur est d'humeur taquine oui. Cet après-midi, c'est tant mieux, hein. C'est l'esprit de notre émission, une émission qui ne se prend pas au sérieux. Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour deux heures d'histoire sans se la raconter autour, comme d'habitude, j'imagine, de trois personnages, Stéphane.
Oui Mathieu, trois personnages qui ne vivaient donc pas à la même époque, qui n'auraient donc jamais pu se croiser.
Logiquement.
Mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, trois dames qui aiment faire le show. Et c'est parti
pour le show. En plus, on va écouter de la bonne musique. Vraiment, restez avec nous.
C'est vous qui faites la programmation musicale. À commencer par celle qui a fait le show dans le Wild West Show de Buffalo Bill, la tireuse hors pair Annie Oakley, une as de la gâchette dans l'Amérique du Far West. Puis je vous raconte celle qui n'a pas seulement fait le show, mais qui l'a inventé à la télé dans les années 60 avec son mari Gilbert, c'est Mariti Carpentier. Et puis Mathieu, de votre côté, vous nous parlerez d'une femme plus contemporaine qui elle aussi adore faire le show. J'ai adoré son interview de Harry and Meghan.
Oui, vous la regardez en replay, je crois, hein, parfois, pour vous faire plaisir. Oui, Stéphane, votre copine Oprah Winfrey, elle est probablement la plus célèbre présentatrice des États-Unis. Comment l'est-elle devenue? D'où vient-elle? Comment sa société de production fait-elle pour afficher un bénéfice annuel supérieur à la vôtre? C'est à toutes ces questions, Stéphane, que je répondrai aux alentours de 5h20. Et puis, bien sûr, nous ne serons pas seuls, mais bien entourés, comme chaque après-midi, avec d'abord cette femme que vous admirez entre toutes et dont vous brossez un portrait flatteur dans les dîners en ville.
Elle est libre à tout point de vue. Oui. Elle a deux enfants qui n'ont pas le même père. Elle est bisexuelle.
Oui, bonjour, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, petit canaillou.
Dans les coulisses de l'histoire.
Bah, écoutez, après Oprah Winfrey, on va refaire un saut dans le temps. Parce que moi, je vais vous emmener à la découverte d'une femme qui aimait brûler les planches, elle aussi, et faire le show, mais les planches d'un drakkar. Oui, c'est la petite amie du plus beau viking du PAF. Elle s'appelait Lagertha. C'était la copine de Ragnar Lodbrok. Et ça n'est pas seulement une héroïne TV. Cette femme a vraiment existé. Vous allez voir. Vous seriez senti tout petit à côté d'elle. Hein.
Ah oui, mais on va être émoustillé ou on va avoir peur?
Bah oui, parce qu'elle est belle comme le jour. Mmh. Hein.
Elle doit être cruelle.
C'est une Suédoise. Non, une Danoise.
Une Danoise cruelle.
Ah non, cruelle, mais torride.
Ah. David Castel-Lopez est également au rendez-vous d'Historiquement Vôtre.
Bonjour David.
Chaque jour, il remonte aux origines d'une invention, d'un objet qui fait partie aujourd'hui de notre quotidien.
Tout à fait. Et alors, souvent, je prends des choses un petit peu faciles à comprendre, comme, je sais pas, le stylo-plume, le bidet. Et là, j'ai décidé de parler de quelque chose qui va paraître énigmatique au premier abord, qui s'appelle la Révolution Verte. La Révolution Verte, c'est un truc qui a sauvé le monde. Et je vais vous raconter cette histoire. Je reste énigmatique sciemment, à dessein. Et voilà, je vais vous raconter cette super histoire de la Révolution Verte.
À mon côté, Olivier Pouls ouvre la bouche d'un poisson hagard.
Il reste dans le verre.
Non, parce que j'ai une Révolution Verte, moi aussi. Une Révolution Verte culinaire, puisque je vais vous parler du pesto, qui est donc en quelque part aussi une Révolution Verte.
Vous êtes consulté, hein. Ça n'est pas possible.
C'est pas possible. Vous deux, là, vous fricotez. Qu'est-ce qui se passe en dehors de l'émission, vous voyez
carte, hein. On est voisins de bureau.
Enfin, c'est un rendez-vous à la fois ludique et comique qui a énormément manqué à Stéphane, même s'il se murmure qu'il a su trouver d'autres divertissements avec ses invités.
On a fait un combat de gladiateurs.
Oui, mais ça ne nous regarde pas. En tout cas, j'en ai l'intime conviction, notre quiz Burn to be Alive lui a manqué. Ce sera vers 5h moins le quart, comme d'habitude. Mais tout de suite, astiquez vos colts, mes petits cow-boys, direction le Far West, à la rencontre d'une femme qui aimait faire le show. Stéphane Bern nous raconte Annie Oakley.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle a un nom à aimer les sucettes, mais elle préfère la gâchette. Direction l'Ouest américain, où elle a fait le show avec Buffalo Bill, Stéphane Bern nous présente Annie Oakley, la femme qui tirait plus vite que son homme.
À force de vous voir jouer aux cow-boys et aux indiens avec David Castel-Lopez dans les couloirs d'Europe 1, Mathieu, je me suis dit que j'allais vous faire plaisir en vous emmenant avec moi à la grande époque du Far West.
Oh, merci.
Quoi de mieux pour cela que d'assister à une représentation du Wild West Show de Buffalo Bill? Vous savez, ces spectacles itinérants de la toute fin du 19e siècle qui font revivre la conquête de l'Ouest. Nul besoin de traverser l'Atlantique. La troupe effectue des tournées internationales et fait le show à Paris en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle. Le tout Paris s'y bouscule tant que les places viennent à manquer. Mais les nôtres, vous vous en doutez, sont réservées.
Oui.
Glissons-nous discrètement dans les gradins de l'hippodrome pour assister à ce spectacle grandiose. Regardez la dextérité de ces Indiens qui capturent des chevaux sauvages au lasso, ramassent des mouchoirs sur le sol au galop ou chassent le bison comme on chasserait un sanglier. Admirez leur courage lorsqu'ils attaquent une diligence américaine. Soudain, devant nos yeux de spectateurs ébahis, une jeune femme entre en scène et se positionne dos à une cible. Armée d'un pistolet, elle tire en ne cédant que du seul reflet d'un couteau. Le coup part, la balle transperce la cible en plein dans le milieu. Sous un tonnerre d'applaudissements, elle bondit hors de scène, donnant un petit coup de pied en l'air, satisfaite d'avoir réussi son coup. Cette tireuse hors pair, c'est Annie Oakley, née sous le nom de Phoebe Ann Moses en août 1860 dans l'Ohio. Ses parents, Susan et Jacob, sont Quakers, très pacifiques donc, comme le veut ce mouvement religieux. Mais cela n'empêche pas le père de posséder une carabine qui sera bientôt le jouet préféré de la petite Annie, qui se révèle être un vrai garçon manqué. Alors qu'elle n'a même pas 6 ans, son père meurt tragiquement d'une pneumonie, laissant la famille sur la paille. Annie est déscolarisée et passe son temps à sillonner la forêt et poser des pièges pour capturer des écureuils et des oiseaux qui servent à nourrir ses frères et sœurs. Dès l'âge de 8 ans, elle se met à tirer et, dis donc, qu'est-ce qu'elle est douée ? Sa mère choisit de la confier, elle, mais aussi sa sœur aînée, à une famille gérant une institution pour malades. Là-bas, Annie apprend la couture, une compétence qu'elle mettra à profit en fabriquant toujours elle-même ses costumes de scène, avant d'être placée chez un couple de la région. Des gens effroyables, les coups de fouet, des loups, comme elle les surnomme, lui laissent des cicatrices à vie. Au bout de plusieurs années d'enfer, Annie parvient à s'enfuir et rejoint sa mère, qui s'est remariée entre-temps à Greenville, dans l'Ohio. Là-bas, elle se remet à chasser et parvient à tuer ses proies d'une balle dans la tête. Elle en rapporte tant qu'elle peut en vendre aux restaurants et magasins généraux du coin. C'est ainsi qu'avec son talent inouï à l'arme à feu, Annie se met à gagner sa vie. Dans les années 1870, le tir à la cible est un sport populaire aux États-Unis et un divertissement payant aussi. Les spectateurs se ruent en nombre pour assister à des compétitions où des tireurs témoignent de leur agilité sur des oiseaux vivants, des boules de verre ou des disques d'argile. Annie commence à se faire une sacrée réputation. En 1875, un hôtelier de Cincinnati a l'idée d'organiser un concours entre elle et le célèbre tireur d'élite Frank Butler. Se mesurer à une femme, même pas peur, l'homme de 25 ans raille cet adversaire de 10 ans sa cadette. Il est persuadé de la battre en un rien de temps. Sauf que, vous vous en doutez, le dénouement n'est pas celui escompté par ce gros macho. Annie et Frank s'affrontent au tir au pigeon. Le but est simple, le premier qui rate un tir est éliminé. Mais voilà que lors du 25e tir, Annie vise juste encore une fois, alors que Butler manque l'oiseau. Vaincu, le tireur d'élite n'en a pas moins le souffle coupé. Résultat pour le moins surprenant, il demande en mariage sa rivale, qui accepte immédiatement. Désormais, Frank et Annie se produisent ensemble. Ils s'installent dans le quartier d'Oakley, qu'Annie choisit comme nom de scène. Notre tireuse est propulsée au rang de star lorsqu'elle intègre le célèbre Wild West Show. En mars 1885, William Frederick Cody, alias Buffalo Bill, lui propose de rejoindre la troupe qu'il a montée 2 ans plus tôt. Le chef Sioux, Sitting Bull, qui en fait aussi partie, est tellement impressionné par Annie Oakley qu'il lui offre le surnom de Watonia Siciliaou, la petite au tir sûr. Face au succès de son épouse, Frank s'éclipse pour se consacrer à la préparation des numéros. Annie tire si vite et bien qu'elle peut effectuer des shows d'une précision incroyable, comme couper une carte à jouer en deux par la tranche, éteindre la flamme d'une bougie ou une cigarette dans la bouche de son mari. De quoi vous couper le souffle ? Le Wild West Show part en tournée en Europe, direction l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie. En Allemagne, Annie fait le tour de la cigarette au Kaiser Guillaume II. Mais lui demande s'il peut tenir la cigarette dans sa main. Elle ne voudrait pas prendre le risque, si infime soit-il, de le blesser. En Angleterre, au printemps 1887, pour le jubilé d'or de la reine Victoria, je précise, c'est le 50e anniversaire de son règne, Annie épate la Queen, mais aussi les 2,5 millions de spectateurs qui se pressent au spectacle pendant 6 mois. Forcément, son caractère se teinte un peu d'orgueil. Cette même année, une rivale du nom de Lillian Smith fait son apparition dans la troupe. Résultat, Frank et Annie se tirent.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elles aiment faire le show, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Et c'est vrai qu'elle adorait ça. Annie Oakley, une tireuse hors pair sous les regards des milliers de spectateurs qui se pressaient pour assister au Wild West Show de Buffalo Bill partout en Europe. Vous nous disiez, Stéphane, que cette as de la gâchette, qui avait donc épousé l'homme qu'elle avait battu lors d'un concours de tir, a pourtant décidé de quitter le show suite à l'arrivée d'une sérieuse concurrente.
Et oui, Annie Oakley a un sacré caractère. Elle ne revient que lorsque la concurrente quitte la troupe au bras d'un cow-boy. Mais en réalité, le succès ne lui monte pas tant que cela à la tête. Au gré de ses voyages, la superstar est témoin de la pauvreté qui sévit dans de nombreux pays, dont le sien, et donne son argent à des organismes de bienfaisance ou des orphelinats. Elle se met au service des autres en apprenant à tirer aux jeunes filles, par exemple. Elle le sait, savoir tirer est bon pour l'exercice physique et mental, mais aussi pour se défendre. Sait-on jamais, Annie Oakley aurait ainsi formé plus de 15 000 femmes au tir. En décembre 1893, Annie et son mari Frank s'installent à Nutley, dans le New Jersey. L'année suivante, ils sont invités à Orange par un certain Thomas Edison dans le tout premier studio de cinéma, le Black Maria. Avec sa nouvelle invention, le kinétoscope, Edison filme une performance d'Annie. La tireuse de 34 ans fait une démonstration de tir rapide sur des boules de verre accrochées à un porte-cible, puis saisit une autre arme pour tirer sur des pigeons d'argile. Son talent est donc encore visible aujourd'hui puisque la vidéo est disponible sur YouTube, figurez-vous. Génial. En janvier 1917, la mort de son ami Buffalo Bill est un coup dur. Annie Oakley lui rend un vibrant hommage à ses obsèques. Mais the show must go on. Installée dans le Maryland, Annie vit grâce aux spectacles et concours. En 1922, elle est encore capable de toucher 100 cibles d'argile à une distance de 15 mètres. Pas mal hein, pour 62 ans, non ?
Je reconnais.
Mais cette même année, un drame interrompt net le parcours de la championne. Suite à un accident de voiture, elle se retrouve grièvement blessée. Sa hanche et sa cheville sont fracturées. Dans sa main droite, une canne remplace le pistolet. Annie Oakley se déplace désormais avec une attelle à la jambe. Deux ans plus tard, on lui diagnostique une anémie pernicieuse. Pour certains, c'est d'un empoisonnement au plomb après avoir manipulé tant de munitions que cet as de la gâchette meurt en novembre 1926 à l'âge de 66 ans, prouvant toute sa vie qu'elle pouvait tirer plus vite que son homme.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Annie Oakley, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane, l'historienne Annick Foucrier. Bonjour Annick.
Bonjour.
Bonjour Annick Foucrier, vous êtes professeure émérite en histoire de l'Amérique du Nord à l'Université de Paris 1. Ces shows, à l'image du plus célèbre Wild West Show de Buffalo Bill, ont-ils participé à ce mythe américain ? En tout cas, ils ont permis à l'Europe de vivre un peu ce que eux avaient vécu quelques années plus tôt, mais dans la réalité cette fois.
Oui, et c'est vraiment très intéressant de parler de Annie Oakley qui est mal connue en France, alors même qu'elle a été très très célèbre, et c'est vraiment une très très bonne chose. Alors, il faut voir que ce show, juste quelques remarques, débute en 1883. Or, en 1890, à la suite du recensement, l'agent du recensement dit que la frontière est terminée et que le peuplement, maintenant, est suffisant et qu'il n'y a plus de nature sauvage. Quelques années plus tard, en 93, lors de l'exposition universelle où se trouve aussi d'ailleurs Buffalo Bill, un jeune historien, Frederick Jackson Turner, théorise cette histoire en parlant justement de la fin de la frontière. Donc on est là dans une période de transition où tout change et selon Turner, c'est dans l'Ouest que l'âme américaine, le caractère américain s'est forgé et non pas comme un héritage de l'Europe, au contact de la nature. Donc là, on est dans un exemple très très intéressant d'une femme, justement, Annie Oakley, qui elle aussi s'est forgée dans la nature. Quand ils arrivent pour donner un spectacle en Europe, ce Wild West Show apporte une certaine image de l'Amérique. Une image d'ailleurs, il y a des Indiens avec eux, mais ce ne sont pas les premiers. Déjà en 1845, George Catlin, le peintre, avait fait venir en Europe aussi des Amérindiens qui étaient des Iowas et qui avaient donné un spectacle devant, par exemple, Louis-Philippe. Donc, ça intéresse beaucoup les foules européenne, cette image qui aussi leur envoie une idée de sauvagerie un peu de l'Amérique alors que c'est pas le cas et que c'est en train de changer.
Mais justement ce show, le Wild West Show, c'est un pur divertissement, c'est un business, mais c'est aussi pour Buffalo Bill une véritable reconnaissance. Il y a une démarche historique de mémoire derrière ce show.
Lui-même, il a une expérience personnelle de la vie dans l'Ouest. Sa famille a vécu dans le Kansas. À 15 ans, il travaille pour le Pony Express pour transporter le courrier. Il a aussi, et c'est ce qui lui a valu son surnom, chassé le bison. Donc, il a cette expérience. Et ses acteurs, ceux qui, par exemple les Indiens, ont eux aussi une vie, une expérience de l'Ouest. Certains même ont participé, comme Sitting Bull, à la bataille de Little Bighorn, où le général Custer est mort. C'est effectivement une image de l'Ouest, il y a une certaine vie, mais il y a aussi bien sûr beaucoup de fiction, de légendes. Buffalo Bill a réécrit sa vie.
Bien sûr. Mais enfin, il est devenu une star. Alors, on cite aussi très souvent, et on en a parlé ici dans cette émission, Calamity Jane, mais Annie Oakley, dont on parle cet après-midi, est-elle moins connue? Pourtant, à cette époque, à la fin du 19e siècle, c'est véritablement elle la star incontournable du show. Comment vous l'expliquez?
Alors, oui, c'est vraiment la star. Elle est d'ailleurs payée, c'est elle qui l'a plus payée après Buffalo Bill, évidemment. Donc, c'est une véritable star dans le monde entier à l'époque. Simplement, on l'a oubliée et c'est bien de la faire revivre. Quant à Calamity Jane, en fait, elle avait été renvoyée de partout parce que, comme elle était très souvent ivre. Et par contre, c'était une fantastique conteuse et elle a réécrit, elle aussi, sa vie. Et c'est ça qui est resté, finalement.
Au fond, l'une était plus star à son époque, mais elle a moins su travailler pour la postérité. On continue à parler de nos dames qui aiment faire le show, et de Annie Oakley en particulier, avec notre invitée, Annick Foucrier, sur Europe 1. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement.
Elles aiment faire le show, c'est le point commun de nos trois personnages cet après-midi dans Historiquement Vôtre. On parle de la tireuse Annie Oakley, qui était dans le Wild West Show de Buffalo Bill, avec notre invitée spécialiste de l'histoire de l'Amérique du Nord, Annick Foucrier. Alors, Annick, dans cette Amérique-là, Annie Oakley n'avait pas beaucoup de choix pour faire vivre sa famille à la mort de son père, Stéphane l'a raconté. En excellant comme ça au tir, en fait, elle a sauvé la vie de ses frères et sœurs.
Oui, en effet, au début de 66, quand son père meurt, elle n'a pas encore 6 ans. Sa mère est seule avec 7 enfants sur un petit lopin de terre dans un monde rural. Et quand sa sœur aînée tombe malade, il leur faut vendre la vache pour payer les soins. Donc, en chassant, Annie apporte à manger à la maison. Et elle n'a, comme vous l'avez dit, que 8 ans. À 10 ans, elle est placée dans une famille, comme vous l'avez dit, qui la maltraite cruellement. Et c'est ce qu'on fait à l'époque pour les enfants pauvres, on les place. Elle finit par s'enfuir, sans un sou, bien évidemment. Et c'est un homme à la gare qui est ému par sa triste histoire et qui lui paye son billet de train pour qu'elle puisse retourner chez sa mère. Mais ce qui est aussi important, c'est de voir la durée de sa vie. Elle naît en 1860, elle meurt en 1920. Entre-temps, les États-Unis passent d'un pays finalement très secondaire à la première puissance mondiale. C'est la période de l'industrialisation, c'est la période de l'urbanisation, d'une immigration de masse, des grandes fortunes, c'est l'époque des Rockefeller, des Carnegie. C'est aussi l'époque de toutes ces inventions nouvelles, comme l'électricité, comme justement ce dont vous avez parlé, les débuts du cinéma. Donc, c'est une période qui est mal connue par les Français, c'est dommage.
Oui, une période charnière. Mais est-ce que c'est étrange pour une femme comme Annie? Elle est chasseuse au début, avant de faire le show. Elle réussit à gagner sa vie comme chasseuse. C'était rare pour une femme à cette époque de chasser, de fournir les restaurants en gibier?
C'est exceptionnel. C'est assez mal vu. À l'époque, la femme, bien comme il faut, vit dans ce qu'on appelle la sphère domestique, c'est-à-dire chez elle. Et sa mère, d'ailleurs, avait été assez choquée quand cette petite fille, à qui personne n'a appris à tirer, tout de même, il faut le dire, c'est elle-même qui, en observant, a appris comment faire. Eh bien, sa mère a été un peu choquée. Mais c'est aussi une période, tout de même, où les femmes revendiquent. On pense à 1848, Seneca Falls, et puis 1920, c'est l'époque de...
Les premières suffragettes.
Voilà, et le droit de vote pour les femmes. Donc, c'est une période de mouvement aussi.
Stéphane l'a dit dans son récit, on l'a compris, Annie Oakley, c'est quand même un fort caractère. C'est ce qui a séduit son mari aussi. Elle l'a battu, il l'a demandé en mariage. Déjà, est-ce que c'est vrai tout ça ? Ça paraît tellement beau, même dans un film, on voit la scène, on a l'impression qu'elle est écrite pour un scénario. Quoi. C'est véridique.
Alors, c'est exact, sauf que en fait, elle n'a pas accepté immédiatement. Ah. Il lui a fait la cour, et en particulier, il lui a fait la cour en utilisant son chien.
C'est-à-dire
parce qu'elle aimait beaucoup les... Ils ont eu d'ailleurs des chiens, et elle aimait beaucoup les animaux. Et donc, il lui faisait passer des petits mots par son chien, et signait justement du nom du chien. Et il a fini finalement par l'amadouer, et elle a accepté. Mais ce qui est important, c'est que Frank Butler a compris que cette gamine était non seulement extrêmement talentueuse, mais qu'en plus, elle était capable de vivre la même vie que lui. Parce que lui, il était déjà marié, il était divorcé, et il menait une vie nomade qui n'était pas compatible avec une vie de famille, disons, classique. Donc, il a compris que c'était possible
ils
avec elle.
Il
ne l'a jamais regretté. Ils ont quand même vécu 50 ans ensemble, jusqu'à leur mort. Elle, début novembre, donc 1926, et lui, 18 jours plus tard.
Ah oui, il l'a suivi dans la tombe.
Oui.
Ses origines à elle, je l'ai raconté, elle était d'une famille de Quakers. Ça jouait un rôle important dans sa vie, j'imagine, parce que ne serait-ce que ce sens du partage, puisqu'elle a fait beaucoup pour éduquer des jeunes filles ou pour distribuer à des œuvres de bienfaisance.
Oui, c'est un point extrêmement important. En fait, l'éducation familiale est essentielle dans la formation du caractère. Les Quakers privilégient l'équité dans les relations humaines et aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui, à l'époque, n'était pas évident pour tout le monde. En fait, elle a été élevée dans une famille très pauvre. Elle est habituée à ne compter que sur elle-même pour faire face aux difficultés. Et elle n'oublie pas ses origines. Et c'est pour ça qu'elle fait autant de dons pour des institutions charitables, et en particulier des orphelins, elle-même ayant été orpheline très tôt.
Parce qu'on dit qu'elle est devenue une star, tout ça. En termes de revenus, elle gagnait vraiment beaucoup plus que la moyenne des Américains à cette époque-là. C'est énorme, c'est comme un joueur de foot aujourd'hui, je ne sais pas.
C'est
cet ordre-là.
C'est vraiment... cet ordre-là. Elle gagnait énormément, évidemment beaucoup plus que son mari, lequel a quand même accepté cela. On dirait, si vous voulez, de nos jours, on dirait qu'elle est plus bancable.
Bancable, là, oui.
Voilà.
Ah, oui, elle est bancable.
C'est
une femme. Oui. C'est-à-dire que c'est extraordinaire d'avoir une femme qui tire plus vite que son homme.
Voilà. Et en plus, elle est très jeune, elle fait très très jeune, donc elle fait très fragile, et ça plaît aussi beaucoup aux foules.
On a parlé du succès du Wild West Show en Europe. Est-ce que ce show a eu le même succès aux États-Unis ?
Alors oui, il a un grand succès en Europe, donc vous l'avez dit, lors du jubilé de la reine Victoria. Mais aussi à Paris. Sadi Carnot d'ailleurs propose à Annie Oakley un poste dans l'armée française.
Carrément.
Ah oui, carrément. Et le Kaiser, en fait, les généraux américains sont aussi allemands, excusez-moi, les généraux allemands sont très intéressés par toute la tout le matériel et la façon de transporter le matériel, et ils s'en souviendront pendant la guerre suivante. Et là, bien sûr, le succès est encore plus important aux États-Unis. La meilleure année, c'est 1893. L'année donc aussi de Chicago, de l'exposition à Chicago. 6 millions de spectateurs et un bénéfice $1 million. C'est vraiment considérable. Mais c'est un travail considérable. Hein. Tous les jours, elle s'entraîne. Tous les jours, le matin, on déballe les affaires des mâles. Ensuite, il y a le spectacle. Dans le bruit, dans le stress. Le soir, on refait les mâles. Et on part en train pour une autre ville le lendemain. Donc, c'est un grand travail. Et ça circule dans tous les États-Unis. Et pour les Américains, il y a des foules, 360 000 personnes, enfin ce sont des foules considérables.
Lorsque Buffalo Bill meurt, alors je le disais, le show must go on, mais les shows finissent par s'arrêter. On peut imaginer que c'est l'avènement du cinéma, les westerns sur grand écran qui prennent l'ascendant et on n'a plus besoin de se représenter les États-Unis.
Alors, c'est vrai, mais il faut voir aussi que ça coûte très très cher. Surtout en plus avec, on utilise l'électricité, justement, c'est de la, très très moderne. Donc ça coûte de plus en plus cher. Buffalo Bill est très attentif au confort et de ses artistes et des animaux. Il y a quand même 180 chevaux, il y a 18 bisons. Les artistes sont décemment logés, ils ont 3 bons repas par jour. Les Indiens sont des Lakota, des Sioux, hein, ceux de Buffalo Bill. Ils sont bien payés, ils sont d'ailleurs très heureux d'y participer parce qu'ils peuvent pratiquer leurs coutumes traditionnelles. Ils peuvent chevaucher ce qu'on ne leur laisse pas faire dans les réserves. Ils peuvent pratiquer les danses, porter leurs costumes. Et en fait, c'est le gouvernement fédéral qui veut les assimiler et qui, lui, est hostile au fait qu'ils participent au show de Buffalo Bill. Et le Bureau des Affaires indiennes fait tout ce qu'il peut pour empêcher que les Indiens y participent. Donc, en fait, ce sont ces modèles qui ont influencé le cinéma naissant. C'est pour ça que dans les westerns, les Indiens sont représentés sur le modèle des Indiens des plaines avec les grandes coiffes et les plumes. Or, il est beaucoup plus rentable de passer le même film un grand nombre de fois que de transporter, comme j'ai dit, une caravane de ville en ville. Donc, il y a une industrialisation du spectacle. En fait, en 1913, Cody est en faillite. Un créancier fait vendre tout le matériel. Et quand il meurt, comme vous l'avez dit, en 1917, c'est la fin d'une époque.
Merci Annick Foucrier de nous avoir éclairé sur ce personnage fascinant d'Annie Oakley.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, elle aussi aime faire le show, elle non plus n'a peur de rien. Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, elle nous présente son alter ego danois, on peut dire ça comme ça, la guerrière viking Lagertha.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui font parfois froid dans le dos. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, ça fait froid de partout, hein, pas que dans le dos. Puisque vous nous présentez une guerrière venue du froid, la Viking Lagertha.
Ah, j'adore. Écoutez, si vous n'avez jamais vu aucun épisode de la série Viking, et si vous ne connaissez pas Ragnar Lodbrok, Ragnar Aubrey velu en vieux norrois, langue scandinave ancienne, alors passez votre chemin. Ah, Ragnar, les yeux bleus, les plus fascinants de toute l'histoire de la télé. Un héros pur aquavite du 9e siècle, n'ayant jamais peur ni jamais froid, et qui, selon une saga du 12e siècle, la Gesta Danorum, geste danoise, saxo grammaticus, bien sûr, vous connaissez, fut le premier viking à avoir trouvé la route des côtes anglaises. Et je vous l'ai déjà dit, parce que j'en suis pas encore revenu, j'ai découvert cet été avec stupeur et tremblement que je descendais de son horrible fils Ivar le Désossé. Je n'endors plus de la nuit, quoi qu'il en soit. Dans la série télé, comme dans la légende nordique, Ragnar Lodbrok a pour compagne, vous le disiez Stéphane, une certaine Lagertha. C'est une skaldmeu viking danoise d'un courage et d'une autorité incroyable grâce à laquelle Ragnar a remporté une des plus belles histoires de victoire de sa carrière. Alors qu'est-ce que, au juste qu'une skaldmeu?
Oui, s'il vous plaît. Oui.
Alors en vieux norrois toujours, ce mot désigne une guerrière armée d'un bouclier. Chez les vikings, en effet, les femmes ne sont pas condamnées à écailler le saumon et à astiquer les dracs. Elles se battent comme les hommes et rêvent, elles aussi, de mourir les armes à la main. Parce que vous savez que c'est la condition sine qua non pour aller au Valhalla, le paradis des combattants. Alors, il y a une célèbre saga nordique qui relate les exploits de ces skaldmeux. Au cours de la bataille de Bravelli en 750, 300 d'entre elles auraient participé au combat. C'est un peu la version, ça vous rappelle quelque chose, messieurs? Ces 300 femmes qui combattent ensemble. Ben oui, c'est le bataillon sacré de Thèbes, c'est un petit peu le même genre. Bon, mais revenons à nos dragons. Alors, si vous ne connaissez pas Ragnar, du moins connaissez-vous Wagner et ses Valkyries.
Ah oui,
vous connaissez.
Ça, quand même,
L'épopée des Valkyries est fondée sur celle des skaldmeux, qui elles-mêmes ressemblent en tout point aux Amazones de l'Antiquité. À ceci près que les Amazones sont généralement à cheval, alors que les Valkyries, elles se battent en tournoyant dans les airs, et depuis les airs, elles terrassent leurs ennemis. Enfin, quoi qu'il en soit, lorsque les Normands écumaient nos côtes, les populations locales étaient stupéfaites de voir quelques femmes échevelées débarquer les armes à la main avec des hommes. Bon. Mais dans les terres froides de l'Arctique, le pli a été pris d'accepter des femmes dans l'armée. Et c'est pourquoi, 1000 ans après les exploits des guerrières victimes, vikings, Lapsus révélateur. Les Finlandais seront le premier peuple européen à créer en 1918 un corps exclusivement féminin. On les appelait les Lotas. L-O-T-A-S. Les Lotas, ce sont des engagés volontaires dans l'armée finlandaise au lendemain de leur indépendance en 1918. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'armée finlandaise, qui n'était pas très importante, elle comptait pas plus de 650 000 hommes, elle avait dans ses rangs près de 150 000 Lotas. Donc, à la différence des Skalmeux, les Lotas, il y a une unité chargée de la DCA qui est basée à Helsinki en 1944, mais les Lotas ne combattent pas. Elles n'ont même pas le droit de faire le salut militaire, alors je sais pas trop pourquoi, mais c'était comme ça. Elle se chargeait uniquement des fonctions non combattantes dans l'armée, le service de santé, l'administration, etc. Donc elles ont perdu leur bouclier, les Lotas, mais leur soutien à l'arrière va néanmoins être absolument crucial. Alors finalement, en dehors des résistantes qui, pendant la guerre, prirent les armes sans demander l'autorisation de personne, vous vous souvenez que je vous ai souvent raconté en parlant des sorcières de la nuit, des unités combattantes soviétiques, que seuls les soviétiques se battaient, parce qu'on considère qu'une prolétaire égale un prolétaire. Allez, tout le monde prend sa kalachnikov. Mais en Russie, dès 1917, il existait un bataillon de la mort féminin créé par Maria Leontief-Boshkareva, dite Yashka. Et Yashka, ça a été la première femme russe à commander une unité militaire dans l'armée du Tsar. Pendant la Grande Guerre, elle a été blessée et décorée. Et ce bataillon d'environ 300 femmes au crâne entièrement rasé a combattu contre les Allemands, rappelant par leurs sacrifices les fiers Skalmeux de Bravellir. Si c'est pas beau, ça on se croirait dans Game of Thrones.
C'est mieux, c'est mieux que Game of Thrones.
Ouais, donc, c'est pareil tout
vous
ça.
Vous êtes une fan de la série Viking alors.
Ah bah bien sûr.
Il faut regarder alors.
Ah, oui, moi j'ai passé à côté. Écoutez les premiers épisodes, oui c'est.
Mais vous, mais ça a dû vous faire froid, Stéphane.
Non, j'ai beaucoup aimé, mais au bout d'un moment, après la première saison, c'est toujours pareil quoi.
Quand on aime, on ne compte pas, Stéphane.
Enfin, on n'a rien appris sur la vie de la Goethe, en tout cas.
Oh, bah oui, si, on a appris beaucoup plus.
Si, elle s'est battue sur tous les. Si, oui. Si, elle a aidé à.
Elle a eu des enfants.
On s'en fout, Stéphane. Question, ne creusez pas trop les sujets comme ça. On a eu une vision globale
des
Vikings.
Est-ce que Vercingétorix a eu des enfants? Mais on s'en
bien
fout.
Sûr. Ah bah
mais
non,
pas du tout.
Pas. Mais non.
Ne vous disputez pas encore. Ça sera la séquence suivante de l'émission. C'est
bon,
tout l'objet de cette
Clémentine.
Séquence.
Écoutez, on en a déjà beaucoup appris.
Oui, c'est déjà pas mal. Et on va en apprendre certainement encore moins.
Elle descend du vent le désossé. Et c'est ce qui va lui arriver. Il va le désossé. Ça va lui arriver dans un instant. Je comprends votre amour des os et des abattis maintenant.
Ça vient de là. C'est pour ça. Ouais, ça explique mon embonpoint. Vous voyez, il faut que je m'allonge chez un bon psy, que je parle de mon aïeul. L'hiver, le désossé.
Vous n'avez rien compris à cette séquence. La suivante va être encore plus incompréhensible. Le quiz arrive, le face-à-face entre Stéphane Bern et Clémentine Portier-Kaltenbach.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure du quiz a sonné, les amis, moment de vérité où les véritables compétences des uns et des autres sont enfin exposées au grand jour. Selon la période historique évoquée, les réponses fusent plus ou moins rapidement. Quand j'évoque par exemple l'Empire Maya ou l'Égypte antique, ça peut être très très long. Ah, oui. Quand en revanche j'évoque une période de l'histoire dont ils ont la nostalgie, ça va beaucoup plus vite.
Ah bah, Pétain, bien sûr.
Jouons à Bern to be alive.
Non, c'est...
Je plaisante. Évidemment, vous avez raison
c'est
de défendre
grave.
Clémentine.
C'est
même...
toi qui parlais ou moi, là j'ai
c'est
pas.
Vous. C'est vous, Clémentine.
Ah
bah Pétain, ça peut être que vous.
Ah bah bien sûr, merci, voyons.
J'aimerais commencer ce quiz avec Barack Obama, le 44e président des États-Unis. De l'adolescence à l'université, figurez-vous que c'était un gros fumeur de marijuana à tel point qu'on le surnommait Smokey Barack. Vrai ou faux, Stéphane?
Ah non, je peux pas croire une chose pareille. Honnêtement, je peux pas croire une chose pareille.
Ça paraît très curieux, là, voilà ça, un homme qui était très concentré sur
parce
ses études.
Parce que vous savez, ça ramollit le cerveau. On connaît tous les dégâts de la marijuana maintenant sur le cerveau.
Pour vous, quelqu'un qui aurait fumé de la marijuana dans sa vie ne pourrait jamais accéder à la plus haute fonction des États-Unis. C'est impossible intellectuellement. Son cerveau...
Non, il a dû fumer un gros pétard une fois dans sa vie.
Voilà,
mais enfin, c'était pas...
Mais le professeur Lichtenstein le dit bien, si vous fumez un pétard tous les jours, à la fin, votre cerveau, vous n'avez aucune capacité intellectuelle.
Vous ne serez pas président des États-Unis. Donc vous répondez...
Eh bien, pour moi, c'est non.
Vous avez...
Et c'est une bonne réponse, mais pas du tout pour la raison que vous avez avancée, puisqu'on le surnommait Barack Oganja, exactement pour les mêmes raisons. Mais depuis, il a totalement changé d'hygiène de vie, même s'il a été le premier président des États-Unis à faire brasser de la bière au sein même de la Maison Blanche avec du miel qui provenait de la ruche du jardin potager de la première dame, Michelle Obama. Et oui, Il a vécu sa jeunesse, Barack Obama, contrairement à vous, visiblement. Ouais. Stéphane, question numéro 2.
J'ai jamais fumé quoi que ce soit.
C'est vrai ?
Jamais.
Vous n'avez jamais essayé ?
Jamais.
C'est incroyable.
Les question champignons hallucinogènes ?
Jamais.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Évoquons Brassens.
Comme l'homme auquel le jour même, il avait fait trancher le cou. Garogorie.
Une chanson qui n'a pas été choisie au hasard. Elle fait sourire, mais aussi réfléchir sur la peine de mort. Et justement, est-ce que Georges Brassens a connu de son vivant l'abolition de la peine de mort ?
Est-ce que Brassens est mort avant 81 ?
On fête cette année.
Ça doit être à
quelques suite, si oui. vous donnez, si
c'est...
vous offrez des
mais
points,
voilà, c'est à quelques,
ça
c'est
pas,
à quelques
c'est
mois près, ça va se jouer à quelques jours près. Je sens le truc bien, mais oui, ça va être un truc comme ça. Il aurait été très heureux de
Est-ce qu'il a eu ce bonheur-là ?
Eh bien, soyons optimistes et répondons oui.
Vous avez gagné !
Oui, ça a été une nouvelle qu'il a connue de son vivant. La peine de mort est abolie 20 jours seulement avant la mort du chanteur. Il n'a pas eu le temps de beaucoup se réjouir. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Les apothètes étaient les combattants d'un bataillon du Péloponnèse. Leur particularité, ils faisaient eux aussi une sorte de haka avant un assaut guerrier. Mais il n'existe aucun lien entre eux et les rugbymen néo-zélandais. Vrai ou faux ?
Je crois que oui, les apothètes...
Ça vous dit quelque chose ?
Ça me dit quelque chose.
Ils faisaient un haka.
Ça, je ne sais pas, je ne vivais pas dans l'Antiquité.
Non.
En revanche, comment voulez-vous qu'il y ait un lien entre les apothètes en Grèce ? Dans l'Antiquité, et les Néo-Zélandais, ils ne pouvaient pas se rencontrer.
C'est possible. Ensuite, il y a eu Marco Polo, il y a eu des échanges, je ne sais pas.
Non.
Peut-être un descendant de,
de
guerriers grecs.
Je veux bien me planter, mais au moins j'essaie d'être logique. Il n'y a pas de lien.
Mais les apothètes n'étaient pas des combattants d'un bataillon du Péloponnèse.
Ah si, ça je suis d'accord.
Donc quelle est votre réponse à cette question ?
C'est quoi la question ?
Les apothètes étaient les combattants d'un bataillon du Péloponnèse. Leur particularité, ils faisaient eux aussi une sorte de haka avant un assaut guerrier. Entre parenthèses, petite précision, même s'il n'existe aucun lien entre les rugbymen.
Voilà,
et les...
Voilà.
Donc, la question mieux formulée.
Donc je dis oui.
Vous avez perdu.
Et voilà, c'est parfait. Je vous ai remis sur les rails. Vous avez perdu le gouffre des apothètes, Stéphane.
Oui.
Rien à voir avec des combattants d'un quelconque bataillon. Le gouffre des apothètes était l'endroit où les Spartes, qui pratiquaient une sorte d'eugénisme assez sympathique, jetaient
les
nourrissons faibles, en mauvaise santé, ou même juste moches.
Ouais.
Voilà, bravo. Ouais.
J'aurais pu connaître, parce qu'on m'aurait carrément envoyé.
Stéphane, j'ai vu les photos, vous étiez un bambin adorable.
Ouais,
question numéro 4 pour vous, Clémentine. On avait parlé l'année dernière de cet artiste du 19e siècle, trop peu souvent cité au goût de Stéphane, Joseph Pujol, célèbre pétomane originaire de Marseille. Eh bien, à la cour d'Henri II, le premier roi d'Angleterre de la maison Plantagenet, il y avait également un bouffon dont c'était la spécialité. Vrai ou faux ?
Aïe.
Je rappelle que c'était le mari d'Aliénor d'Aquitaine.
Et de la fameuse Rosemonde, là, non ? Il a trompé Aliénor avec cette ravissante femme. Là.
La question est, c'est le père de la
Richard
cour du roi ?
Oui, voilà, il y a une magnifique histoire à raconter. Et vous êtes sur le pétomane, naturellement.
Oui, c'est sur les à côté de l'histoire.
Henri II avait-il un pétomane ?
J'espère
est-ce
pour
que,
lui.
Est-ce que les annales de la cour d'Angleterre ont conservé le souvenir d'un pétomane
Quelle odeur encore.
Moi, je touche le fond avec les questions et vous creusez encore.
Oui. Franchement, c'est...
Mais parce que c'est vous qui nous encouragez, Mathieu.
De toute façon, je pense que vous voudriez que nous fassions la cinquième question. Oui, et pour cela, il faut que je me plante. Donc, je vais répondre que non, Henri II n'a pas eu de célèbre pétomane. Je trouve ça affligeant.
Vous avez...
C'est affligeant, mais c'est l'histoire, madame. Il est connu sous le nom de Rolandus le Farteret, Roland le Péteur, si on veut traduire. Il a reçu un manoir et 12 hectares de terrain pour ses bons services. Sa spécialité, une danse qui se finissait par un saut, un sifflet et une flatulence. Tout ça parfaitement coordonné.
Voilà, il n'était pas qu'un pétomane, alors.
Écoutez,
voilà, vous l'avez réduit à sa plus simple expression.
N'est pas Molière
qui
veut.
Il a plus nauséabonde, ça ne m'étonne pas.
Question numéro 5, nous y voilà. La question de rapidité. Aux États-Unis, depuis quelle date, les amis, l'État d'Alabama a-t-il abrogé les lois anti-métissage qui interdisaient les mariages entre deux personnes qui n'avaient pas la même couleur de peau ? En gros, depuis quand un blanc peut-il se marier avec une noire et réciproquement en Alabama ? Trois propositions, 1980, 1990 et 2000.
90.
2000, c'est une victoire de Clémentine.
Je voulais
Portier,
raconter, là, mais vous avez vraiment une mémoire de poisson rouge.
Effectivement, en 1987, vous l'aviez raconté dans l'État du Mississippi, en 1998 en Caroline du Sud et en 2000 pour l'Alabama, les lois sur le métissage interdisant les mariages mixtes dataient du début du 18e siècle. Bravo, Clémentine.
Les gens pouvaient quand même se marier sans... C'est comme les femmes qui n'avaient pas le droit de porter un pantalon à Paris. La loi a été abolie en 1987.
Vous vous souvenez de cette histoire, hein. On devait aller se marier dans un autre État.
Non, non, ils se marient toujours dans d'autres États. Il y a des histoires comme ça, même des films qui en parlent. Écoutez, c'est une très belle victoire, Clémentine.
Voilà, je trouve aussi. Oui, hein, oui, parce que sur le pétomane, j'étais un petit peu fragile.
Tout ça grâce à un pétomane, comme quoi.
C'est...
Bravo.
Europe 1, historiquement vôtre.
Comme Stéphane dans cet épisode de Meurtre en Lorraine où il avait dû dire « Oh les mains !»
Et je fais « Oh les mains !» Et c'est assez crédible dans la scène.
Nos héroïnes du jour ont fait leur show. Après Annie Oakley, l'as de la gâchette, vous nous parlez Stéphane d'une femme qui excellait plutôt dans les shows télé.
Oui Mathieu, à une génération près, vous ne l'avez pas connue parce que vous regardiez bêtement le Club Dorothée.
Oui.
Mais les jeunes de ma génération, rien que de dire ça, les jeunes, comme si j'avais été jeune, n'ont pas oublié Mariti et Gilbert Carpentier, surtout Mariti, la reine des variétés avec son complice de Marie Gilbert. Toute une époque qu'on va revivre ensemble.
J'ai hâte.
Oui. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait, bon 99% vrai, d'une reine du show et du showbiz mais qui est bien vivante.
Oui elle est vivante,
oui, elle est riche surtout.
Elle est déjà aussi une légende, je vous raconte le dessin d'Oprah Winfrey, peut-être la présentatrice télé la plus célèbre au monde, après Sophie d'Avant bien sûr.
Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui serait remboursée par la Sécurité sociale si elle était payante, mais elle est gratuite. Et chaque après-midi, c'est un grand bol de bonne humeur dans lequel nous trempons allègrement la grosse tartine de l'histoire. Une émission dans laquelle on évoque bien sûr les moments sombres de l'histoire, mais où l'on tâche de rester toujours positif. Comme David Castello-Lopez qui a eu l'autre jour ce très beau message aux Afghans.
Sors dehors, regarde la beauté de la création et dis-toi que tu en fais partie.
Un message qui, à n'en pas douter, a dû leur réchauffer le cœur.
Ça c'est sûr Mathieu. Bon, plus sérieusement, on pense évidemment à eux.
Oui.
Parce que ça doit pas être drôle. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'humoristes encore.
Non, il n'y en a plus beaucoup, non.
Et ici, chaque après-midi, nous réunissons trois personnages très différents, issus d'époques différentes donc, mais qui ont cependant un point commun. Aujourd'hui, ce sont trois dames qui aimaient faire le show. Après Annie Oakley, légende du Far West, je vais vous raconter l'histoire de Mariti Carpentier, la reine des émissions de variété dans la France des années 1970. Et puis, elle a démarré dans les années 70, mais elle est toujours là et elle tient le haut du pavé. Hein.
Et oui, Stéphane, je reviendrai sur le destin extraordinaire qui donnera certainement lieu un jour à un biopic de la reine des médias américains, Oprah Winfrey. D'où vient-elle? Comment a-t-elle bâti sa fortune et son empire? Je vous le raconte dans une vingtaine de minutes.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs qui aussi deviennent des stars. Sans transition avec Oprah Winfrey, David Castello-Lopez. Vous nous racontez les origines de la Révolution Verte, c'est ça?
C'est ça, c'est exactement la Révolution Verte. Je sais bien que vous ne savez pas ce que c'est et que les auditeurs peut-être ne savent pas non plus. Mais justement, je vais faire ça, j'entretiens ce mystère, je vais vous dire ce que c'est et d'où ça vient.
Tant que vous ne parlez pas du Viandox, moi
non,
ça
non,
me va.
Il s'agit d'agriculture.
Olivier Pouls est avec nous également.
Moi j'ai la vraie Révolution Verte. Lui il a un truc, un concept, je ne sais pas trop bien quoi, mais la vraie Révolution Verte c'est le pesto.
Oui.
Ah oui, ça c'est la vraie révolution verte dans la cuisine italienne.
Il y a de l'ail.
Il y a du pesto rosso aussi, du pesto rouge, hein, si je ne m'abuse.
Oui, mais c'est pas l'authentique. Moi, je vais vous parler du vrai et celui d'ailleurs qui est défendu par une appellation d'origine protégée. Et je vous apprendrai justement à vous méfier des contrefaçons. Puis je vous donnerai évidemment la recette de l'authentique pesto.
Et vous faites la distinction aussi, s'il vous plaît, avec le pistou provençal.
Exactement.
Qui est une variante.
Qui est une variante.
Mais on se trompe. Ouais. Et moi, quand je commande du pistou et qu'on me sert du pesto, si parce que je ne suis pas content.
Il y a deux ingrédients qui font la différence. Je vous dirai lesquels.
Mais oui, mais je les connais.
Il y a de l'ail dans les deux.
Visiblement, vous avez un problème. Il y a un truc avec l'ail. C'est passé un truc un jour dans votre vie avec l'ail. Un premier rendez-vous.
Oh, les vacances au Portugal.
On est vacciné après.
Écoutez, pour vous, on ferait entorse aux règles, on fera sans ail.
Non, ça n'a pas de sens.
Le chef veut du halal.
Enfin, Stéphane, comme à l'issue. C'est une nouvelle. Un nouveau produit. Comme à l'issue de la première saison d'Historiquement Vôtre, souvenez-vous, vous aviez épuisé, Stéphane, tous les mots et expressions de la langue française, que vous étiez rincé. On a songé un moment évidemment à refiler la chronique à David, mais comment dire,
une bistouquette n'est pas constituée de deux stouquettes.
Le pilote n'a pas été concluant, alors on a préféré opter pour un bon vieux quiz. Chaque jour désormais, cette émission se termine par une grande empoignade collective. On a baptisé ça la lutte finale, et c'est vous Stéphane qui êtes aux manettes.
Ça me va si bien.
Et bien sûr. Mais avant de se foutre sur la gueule, cultivons-nous un peu. Stéphane nous raconte notre deuxième femme qui aimait faire le show, et les a même inventées à la télé, Mariti Carpentier.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer.
Et on rallume Stéphane Bern aussi pour découvrir avec lui le destin de celle qui, accompagnée évidemment de son mari Gilbert, a inventé les émissions de variété à la télévision où tous les artistes de l'époque sont venus chanter. Oui, même Michel Fugain. Stéphane Bern nous raconte Mariti Carpentier.
Ensemble, Mariti et Gilbert Carpentier ont imaginé et produit des émissions de variété qui, chaque samedi soir, sur la deuxième chaîne, puis TF1, pouvaient réunir jusqu'à 15 millions de Français devant leur poste de télévision. Plus personne ne peut aujourd'hui se vanter d'en faire autant. Les Carpentiers restent à jamais les créateurs de shows joyeux qui voient se produire des artistes hauts en couleur, qu'ils soient chanteurs, humoristes ou danseurs. La Grande Farandole, Sacha Chaud, Les Grands Enfants, Top A et Numéro 1 vous disent forcément quelque chose. Direction les années 50 pour un bond dans l'histoire du petit écran à la rencontre de Mariti et un peu Gilbert aussi, oui. Carpentier.
Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux.
Marie-Thérèse Zédé, oui, Mariti, c'est bien son surnom, est née il y a tout juste 100 ans, en septembre 1921 à Paris. À 20 ans, alors qu'elle révise son bac au jardin du Luxembourg, comme beaucoup d'étudiants de la capitale, elle fait la connaissance de Gilbert Carpentier. Le coup de foudre est immédiat. Lui fait le conservatoire de Paris et devient pianiste, tandis qu'elle étudie l'anglais à l'université. Après la Seconde Guerre mondiale, Gilbert Carpentier rejoint Radio Luxembourg, ancêtre de la RTL, et gravit les échelons jusqu'à la réalisation de feuilletons radiodiffusés. Il compose la musique et c'est son épouse Mariti qui écrit les textes. Le couple travaille toujours ensemble avec une répartition des tâches parfaitement millimétrée. Lorsqu'il crée la série des disques Babar en 1957, Mariti adapte les textes de Jean de Brunhoff et dirige les comédiens, tandis que Gilbert compose les musiques et dirige les musiciens. Le résultat, vous le connaissez bien.
Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Elle l'a installé dans un hamac suspendu à deux palmiers et pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement.
Mon petit enfant éléphant, je t'aime tant et tant et tant.
Dans les années 1950, le couple Mariti et Gilbert Carpentier réalisent ainsi diverses émissions de radio comme L'Heure Musicale, Le Club des Vedettes ou Musique à la Clé, présentée par Philippe Clay. En 1960, le directeur des variétés de la RTF, qui deviendra par la suite l'Office de Radiodiffusion Télévision Française, propose à Mariti et Gilbert Carpentier de créer des émissions pour la télévision. Et pour cause, celles qu'ils pilotent à la radio sont si drôles qu'on aimerait bien avoir les images. Dès l'année suivante, le couple crée l'émission La Grande Farandole qui lance des artistes comme Jean Poiret ou Michel Serrault et dont le succès ne se dément pas durant 7 ans. Gilbert Bécaud leur réserve la première dès maintenant en 1961.
Et maintenant, je t'aime de tout ce temps.
Autre artiste propulsé au rang de star grâce au couple, Sacha Distel, à qui Mariti et Gilbert offrent carrément sa propre émission, le Sacha Show, inspiré des shows qu'ils ont découverts lors d'un voyage aux États-Unis. Au studio 17 des Buttes-Chaumont à Paris, les Carpentiers écrivent l'histoire du show télé Top A, puis Numéro 1. Ils sont mis en boîte dans les années 70. Deux émissions qui s'imposent l'une puis l'autre comme le rendez-vous incontournable du samedi soir. Là aussi, très inspirées des shows américains, elles donnent à voir des décors spectaculaires, une nacelle de montgolfière, la cuisine d'un grand restaurant, un jardin à l'italienne et des costumes qui en jettent. On peut admirer Enrico Macias en Louis XIV, Annie Cordy en chanteuse de Broadway, Dalida en geisha ou Mort Schumann et Jane Birkin incarnent Red Butler et Scarlett O'Hara. Certains sketchs sont devenus cultes, comme « Parler pour ne rien dire » de Raymond Devos.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Mais bref, c'est trop facile. Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle.
Johnny, Sylvie Vartan, Aznavour, Sheila, France Gall, Michel Berger, ils y sont tous passés. Chaque émission est conçue autour d'une vedette qui anime l'intégralité du show. En 1977, sur le plateau de numéro 1, Joe Dassin introduit un certain Michael Jackson. S'il n'a pas encore sorti Thriller, c'est en famille que cette étoile montante de la pop nous donne des frissons. Les Jackson 5 livrent sur le plateau des Carpentiers une interprétation groovy de Keep on Dancing. Keep on dancing. Let the music take your mind. Keep on dancing. Le succès est tel que les producteurs parviennent à exporter leur programme dans plus de 20 pays. Gilbert s'occupe de la technique et des décors, tandis que Mariti gère la partie artistique. On la surnomme la nounou des artistes. Le maître mot de tous ces shows, vous l'aurez compris, c'est de divertir dans une ambiance bon enfant. Et la télé, écran de son contexte historique, reflète parfaitement la parenthèse enchantée des années 70. Pour vous planter le décor, c'est post-mai 68 Woodstock, les chemises à fleurs, une économie florissante, une jeunesse insouciante et un leitmotiv, celui de l'amour libre. Liberté qui règne aussi dans le milieu de la télé. Et oui, la télé publique du temps des Carpentiers ne dépend pas de l'audience et fait fi de la concurrence. Mais voilà que le paysage audiovisuel est justement en train de changer. Si en 1980, le couple Carpentier se voit récompensé d'un prestigieux Emmy Award de la meilleure émission étrangère, les années qui suivent ne leur sont pas favorables. En 1975, l'ORTF disparaît au profit de trois chaînes, toujours publiques, TF1, Antenne 2 et FR3. Avec la recomposition du paysage audiovisuel français, le couple atterrit sur TF1, mais Mariti et Gilbert ont moins de liberté de création qu'avant. Finalement, la chaîne, jugeant leurs émissions trop chères, les remercie en 1986, quelques mois avant sa privatisation. Malgré quelques émissions ponctuelles, des hommages consacrés à Dalida, Claude François, Aznavour ou encore Alain Souchon à la fin des années 90, l'aventure s'arrête. En 1996, TF1 met le couple de producteurs à l'honneur en diffusant Top A, Mariti et Gilbert Carpentier, une de leurs dernières et rares apparitions télévisuelles. Dans le Var, peu de temps avant la disparition de Gilbert en 2000, Mariti se confiait aux Parisiens. « Cela reste notre drogue. La télé, on la regarde vraiment, avec enthousiasme, jamais indifférent. À consommer, toutefois, avec modération. »
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Mariti Carpentier, nous sommes avec un producteur de télévision qui aime particulièrement raconter l'histoire de la télé. Bonjour Philippe Tullier.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Bonjour Stéphane. Philippe, on rallume la télé des Carpentiers avec vous dans un très court instant.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos dames qui aiment faire le show continuent. On parle de Mariti Carpentier qui a inventé avec son mari Gilbert, bien sûr, les variétés à la télé. On en parle avec notre invité, lui aussi homme de télé, Philippe Tullier, Stéphane.
Oui, Philippe Tullier, vous avez produit de nombreuses émissions et documentaires pour la télévision, souvent à base d'images d'archives. Vous êtes l'auteur avec Jérôme Anthony de Mariti et Gilbert Carpentier ou L'âge d'or de la variété, qui est paru aux éditions du Chêne. Et vous êtes aussi le coproducteur de l'émission de Laurent Ruquier. On est en direct, diffusé le samedi soir sur France 2. Le samedi soir en télé, justement, c'est vrai que c'est un soir particulier. Les Carpentiers ont inventé cette case des variétés que beaucoup ont essayé de copier ensuite. Ils ont tout inventé ou ils ont tout piqué aux Américains qui diffusaient d'ailleurs ce genre de grand show.
C'est bien pour accueillir cette question,
c'est agréable. Non, alors oui, il y a une inspiration de la télévision américaine, c'est indéniable, dans les années 60, et surtout pour les Sacha Show. En fait, ils sont inspirés du Dean Martin Show, où Dean Martin était entouré de Sammy Davis Jr. et Jerry Lewis, et voilà, les Carpentiers ont entouré Sacha Distel de Jean-Pierre Cassel et de Jean-Yann, et également de Petula Clark qui venait faire de temps en temps des apparitions dans cette émission. Mais pour la suite, les Américains ont été même au contraire bluffés du travail des Carpentiers parce que chaque semaine, eux, ils réécrivaient l'histoire. Ils inventaient un univers, des décors, des costumes autour d'un invité principal, ce que les Américains ne faisaient pas, puisqu'en fait, c'était des séries d'émissions autour d'un invité qui était toujours le même.
Alors, Stéphane le racontait, l'aventure télévisuelle des Carpentiers s'arrête dans les années 90 et c'est vous qui avez produit leur toute dernière émission qui était consacrée à Charles Aznavour. C'était comment de travailler avec Mariti et Gilbert Carpentier ?
Alors, on l'avait fait à l'ancienne. J'avais perdu beaucoup d'argent en produisant produisant cette émission.
Avec cette émission qui coûtait vraiment affreusement cher.
Mais alors, en fait, à l'époque, ça ne coûtait pas cher parce qu'ils avaient tout sur place avec la SFP, mais au but de Chaumont. Mais aujourd'hui, voilà, il faut faire appel à des prestataires divers et variés, extérieurs.
On ne rentre pas dans ces sous.
Non, alors on ne rentrait plus dans ces sous. si on devait faire aujourd'hui une émission à la Carpentier, c'est sûr que ce n'est pas très viable. En revanche, donc, on avait adopté la méthode de travail à l'ancienne donc de Mariti et Gilbert, qui étaient fous de joie de faire ce baroud d'honneur, ce dernier feu d'artifice, autour de leur ami Charles Aznavour. C'est-à-dire qu'on avait fait un déjeuner chez eux, dans leur sublime appartement sur le jardin du Luxembourg. Et au cours de ce déjeuner, et autour de l'artiste, était défini le programme de l'émission. Quels étaient les invités qu'il voulait avoir à ses côtés, avec qui il allait chanter en duo? Quels étaient les décors dans lesquels il aurait aimé se présenter au public? Et donc, on avait travaillé comme ça. Et on avait établi une liste. Bon, alors pour cette émission, c'était évidemment magnifique. Parce qu'il y avait rien que Maria Carré, par exemple.
Ah oui, quand même.
Mais il y avait Patrick Bruel, Alain Souchon, Francis Cabrel, Patricia Cass et bien d'autres.
Mais finalement, Mariti, Carpentier et son époux étaient en quelque sorte les rois du petit écran. Qu'est-ce que ça signifiait pour un artiste d'être invité dans leur émission ?
Un grand honneur. Alors, moi, j'ai rencontré beaucoup d'artistes quand j'ai fait des documentaires qui leur étaient consacrés. Tous me disent, alors ceux qui débutaient et qui faisaient leur première télé chez les Carpentiers, c'était évidemment significatif d'audience, puisque, c'est, comme vous l'avez rappelé, c'était 15 millions minimum chaque samedi soir. Et les Carpentiers, c'était une marque. Dans leur générique, il n'y avait pas une émission produite par les Carpentiers. C'était écrit en début de générique, Mariti et Gilbert Carpentier. Point. Pas présente, pas produise, non, rien. Et c'était une marque. Et donc, c'était des stars, les rois de la télévision de l'époque. Ils étaient couverts de cadeaux, de fleurs.
Mais
le téléphone n'arrêtait pas de sonner.
Ils avaient une grosse responsabilité. C'est eux qui définissaient quel artiste allait devenir une star ou pas, finalement.
Exactement. Et c'est d'ailleurs ça qui leur a coûté un peu la suite de leur aventure télévisuelle. On leur a reproché d'avoir une équipe d'artistes et à peu près toujours les mêmes qui passaient chez eux et qui ne faisaient pas assez place à des gens qui émergeaient dans les années 80.
Nouveautés. On mentionnait le studio 17 des Buttes Chaumont où toutes les émissions des Carpentiers étaient enregistrées et où chaque semaine on construisait donc des décors plus spectaculaires les uns que les autres. C'était quoi l'ambiance dans ce studio 17?
Alors, c'était le Hollywood sur scène. En fait, il y avait 3-4 plateaux pour Jean-Christophe Averty. Jacques Chancel y tournait son grand échiquier en direct également. Et les Carpentiers, eux, avaient assiégé l'endroit où il y avait des ateliers de construction de décors. Donc, il y avait des menuisiers, des peintres et les ateliers de costumes avec des centaines de costumes qui étaient là et qui servaient pour un danseur. La semaine d'après, on recyclait tel smoking. C'était ça, ils avaient tout sur place.
Ils perdent leur monopole à partir des années 80.
Oui.
L'origine de leur déclin, c'est uniquement, selon vous, Philippe, le fait qu'il n'ait pas senti les artistes qui émergeaient.
Alors, ça, c'est ce qu'on leur a reproché, mais c'était plus globalement une chasse aux sorcières en 80. Les années Mitterrand démarrent. Ils font partie d'une charrette avec Daniel Gilbert et Guy Lux, et ces variétés populaires, c'est pas la tonalité de ces années-là. Donc, on va se dire que, on va leur dire aussi que 44 samedis par an, c'est beaucoup, et que il faut faire la place à d'autres. Ils ont occupé le créneau pendant 9 ans, et donc finalement, on va les raréfier, on va leur donner une mensuelle, plus le samedi soir, où on va installer Michel Pollack, par exemple, et on va leur donner le mardi soir, dans une émission qui s'appellera Formule 1, qui ne va pas marcher, parce qu'on va aussi leur demander d'ouvrir à d'autres artistes, et c'est plus leur famille, c'est plus leurs amis. Donc ça va moins prendre pour le public.
Mais on aurait pu imaginer qu'en dégotant de nouveaux talents, par exemple, une émission de variété aurait pu continuer dans cet esprit-là. C'est pas le cas, c'est les télécrochets qui ont pris le dessus par la suite.
Oui, alors l'esprit des années 80 n'y est pas. Oui. Aujourd'hui, effectivement, les concours de talents, font les audiences, mais ça veut dire qu'il y a quand même un engouement encore du public pour la musique.
On le voit, mais on le voit aussi avec les émissions d'hommage, par exemple.
Oui.
L'anniversaire de carrière de Michel Sardou,
il
y a eu quand même un certain nombre
d'émissions.
Oui, et puis
les Enfoirés, qui moi, et aujourd'hui... ce qu'était l'esprit des Carpentiers, parce que on s'amuse, on fait des sketchs, on chante, on reprend des grands succès. C'était la recette des Carpentiers.
Mais un dernier mot, est-ce que c'est pas le monde de la musique qui a changé maintenant? Il y a les artistes sont entourés de les maisons de disques, les attachés de presse, etc. On peut plus faire plus faire aux artistes.
Alors, on a souvent dit ça.
Les artistes veulent plus faire
Je n'en suis pas sûr. Moi, je pense que ça demandait beaucoup de travail, surtout. Ça demandait au moins une mobilisation de l'artiste pendant une semaine. Et aujourd'hui, une semaine dans, effectivement, des créneaux de promotion comme les maisons de disques exigent de leurs artistes, c'est compliqué. Voilà, mais je pense que la nouvelle génération, justement, vous parliez, Stéphane, des gens des concours de talent, je suis sûr que cette génération-là adorerait s'amuser ensemble et faire des émissions de ce type-là.
Merci beaucoup, Philippe Tillier. Merci, Philippe. Je rappelle votre livre, Mariti Gilbert Carpentier, ou L'âge d'or de la variété, paru aux éditions du Chêne. Merci beaucoup. Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est donc consacré à ces femmes qui aimaient faire le show. Après Mariti Carpentier, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, d'une femme de télé qui officie encore aujourd'hui.
Elle est peut-être un des visages les plus célèbres au monde. 40 ans qu'elle produit et présente des émissions dont les scores d'audience éblouissent même Stéphane Bern, qui est vraiment Oprah Winfrey. Comment s'est-elle imposée? Surtout, comment a-t-elle réussi à durer et à éviter le piège de la surexposition? Préparez-vous à prendre des notes, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on vous raconte trois femmes qui aiment faire le show. Après Annie Oakley et Mariti Carpentier, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, de la plus célèbre présentatrice télé au monde. Et ça fait des décennies que ça dure.
Oui, je sens poindre un brin de jalousie dans ce lancement. Non, Stéphane, vous n'avez pas à rougir devant la carrière d'Oprah Winfrey. Vous aurez reconnu le générique de son talk show mythique de Oprah Winfrey Show. Comment ça, c'est pourri? Mais non, c'est Quincy Jones. C'est juste les années 80, on trouvait ça super à l'époque. Alors oui, Stéphane, c'est vrai, sachant qu'elle est la première milliardaire noire des États-Unis, élue plusieurs fois femme la plus puissante au monde par CNN, on doit admettre qu'Oprah a fait un joli brin de carrière. Mais vous verrez que si on compare vos trajectoires, ce ne sera pas forcément à votre détriment. Commençons par son âge. Oprah est née en 1954, vous êtes donc plus jeune qu'elle.
J'ai gagné,
oui,
j'ai
oui.
gagné.
Attends, non, vous excitez pas non plus. Bon point pour vous. C'est elle qui doit être jalouse. En plus, Oprah Winfrey n'est pas du tout, mais alors pas du tout issue du Gotha, plutôt du ghetto. Milieu extrêmement modeste. Une maman femme de ménage, un père mineur et mineur. C'est-à-dire qu'il travaillait dans une mine et qu'il avait moins de 18 ans. Résultat, la future reine des médias sera élevée par sa grand-mère, une mamie qui plus tard ne s'étonnera pas du succès de sa petite fille qui se souvient. Elle s'amusait à interviewer sa poupée faite en maïs, ainsi que les corbeaux qui se posaient sur les barrières de la maison. Des débuts qui ne sont pas sans rappeler ceux de Stéphane, qui lui aussi fut très proche de sa grand-mère, lui aussi interviewait des stars imaginaires. Bon, en l'occurrence, c'était pas des poupées en maïs, mais les vases de la dynastie Ming et les œufs Fabergé de sa mamie luxembourgeoise. Oh, crotte, désolé, mamie, mon invité a craqué. Oprah, on l'aura compris, ne part pas dans la vie avec les mêmes facilités que vous, non. Élève brillante, elle doit subir à l'école les quolibets de ses petits camarades qui se moquent des robes en toile de jute que sa mamie lui a taillées dans des sacs de pommes de terre. Si ces petits cons avaient su que 20 ans plus tard, elle s'habillerait chez Hermès, ils auraient moins fait les malins. Mais décidément, le destin n'épargne pas Oprah, qui vit une enfance à la Dickens, hein, pauvreté, abus sexuels au sein de sa propre famille. À 14 ans, elle perd même un bébé décédé quelques jours après sa naissance. Elle n'aura plus jamais d'enfant. Mais voilà, tous ces malheurs lui forgent un caractère. Et lui donnent une idée. Donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais dans cette Amérique des années 70. Les noirs, les gays, les lesbiennes, les pauvres, les victimes de violences ou d'abus. L'empathie sera son atout, son identité et accessoirement son fonds de commerce, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, au pays de Rockefeller, on ne fait pas dans le bénévolat, même quand on aime les gens. Très jeune, alors qu'elle n'est encore qu'une brillante étudiante volant de bourse en bourse, elle le sait déjà, elle axera toute sa carrière sur l'empathie. Exactement la stratégie inverse de celle adoptée par David Castello-Lopez, comme ceux qui ont écouté Europe 1 cet été ont pu le constater.
Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour Théo.
Sans nous mener en bateau, David, vous nous racontez les origines de la pilule contre le mal de mer.
Oui, très bon jeu de mots.
Oprah, c'est l'anti-Castello. Elle est toujours, elle, dans la bienveillance et le respect de son prochain. Enfin, quand je dis Oprah, t'aurais plutôt dire Orpah. Car oui, le saviez-vous? Et ça, évidemment, c'est le seul truc que vous allez retenir de mon portrait, c'est un peu désolant. C'est qu'initialement, le prénom de la petite Winfrey devait être un hommage au célèbre personnage biblique du livre de Ruth. Livre de Ruth qui fait partie, comme chacun sait, des livres historiques de l'Ancien Testament chrétien. On a tous en mémoire ce verset « Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se prénommait Orpah ». Je précise pour Olivier et David qui viennent d'avoir un début d'érection que c'est inutile, voire déplacé, puisque Moabite s'écrit en un seul mot et désigne toute personne originaire de la région du Moab, située dans l'actuelle Jordanie. Comment Orpah est-elle devenue Oprah? C'est un prénom qui n'existe pas finalement. Eh bien, c'est probablement une faute d'orthographe de l'infirmière à la maternité.
Est idiote.
Oui. Le temps me manque évidemment pour vous détailler année après année, chaîne après chaîne, la vertigineuse ascension médiatique d'Orpah devenue Oprah à cause de l'infirmière coconne. Mais globalement, on retiendra qu'après le succès local de son tout premier talk show, le Le programme devient national, cartonne et à 32 ans déjà, elle est millionnaire. On lui reconnaît souvent le mérite d'avoir révolutionné et popularisé le principe même du talk show en le poussant toujours plus loin vers un exercice de confession publique avec des anonymes mais aussi, ça fait encore plus d'audience, des stars. Vous entendez la musique de Michael Jackson, ce n'est pas pour rien, tout est pensé dans cette chronique. En 1993, 30 millions de foyers américains sont scotchés devant son interview exclusive de Michael Jackson chez Michael Jackson. On se souvient aussi de Tom Cruise venu démentir de vilaines rumeurs, sautant de joie sur son canapé pour afficher sa fierté d'être hétérosexuel. En 2011, après 22 saisons et 3724 épisodes, Oprah annonce la fin du Oprah Winfrey Show qui avait démarré en 86. Sur la fin, on sentait poindre une certaine lassitude au moment de faire la promo des invités. Lassitude palpable aussi parfois chez Stéphane Bern en fin de saison dernière.
J'annonce aussi que vous venez de publier Carole et Clark chez Stock et les mots du foot aux éditions Je t'emmerde.
Il faut dire que, comme Stéphane, ça ne peut plus être l'argent qui motive Oprah, elle en a gagné tellement. Bon, sur l'interview exclusive d'Harry et Meghan, dont on peut, si vous voulez, Stéphane, rediffuser un extrait.
Je vais vomir.
Non, alors on ne diffuse pas d'extrait. Pour cette interview, elle a quand même pris 8 millions de dollars. Mais non, je dirais que c'était plus par réflexe. Si bien, ça lui demandait combien tu prendrais pour faire l'interview. Et quand t'es Oprah, que tu gagnes des centaines de millions d'euros chaque année depuis 30 ans, tu vas pas dire, je sais pas, 3000 euros. Non, tu parles direct en millions. Ça a fait 8, ça aurait pu faire 9, un peu importe. D'ailleurs, sa fortune n'est pas ce dont Oprah est le plus fier. Contrairement, encore une fois, à David Castello-Lopez. Voilà. Non, Oprah, elle, a un jour déclaré « Dans tout ce que j'ai fait dans la vie, ce que j'allais gagner était toujours la chose la moins importante. » Encore un point commun avec Stéphane qui, je le sais, prend tellement de plaisir à co-présenter cette émission avec moi qu'il pourrait venir à Europe 1 bénévolement. Bref, Oprah a su rester simple malgré ses milliards. Il faut dire que sa couleur de peau lui permet parfois de vivre des expériences lunaires et assez éclairantes sur la connerie persistante de certains individus, comme durant cette séance shopping à Zurich en 2013 où elle repère un petit sac à main Tom Ford très joli, demande à la vendeuse de le sortir de la vitrine afin qu'elle puisse le voir de plus près et la vendeuse de lui répondre « Ah non, c'est trop cher pour vous celui-là, madame. Regardez plutôt ceux-là, ils sont moins chers. » Comme 38 000 francs suisses, c'était pas vraiment trop cher pour Oprah, l'Office du tourisme suisse a été obligé de présenter ses excuses. Amatrice de shopping, Oprah est apparemment aussi très généreuse avec ses employés à qui elle offre de super primes, des vacances à Hawaï et même parfois des voitures. Moi, un an que je bosse avec Stéphane, pour l'instant, j'ai eu un pot confiture fraise rhubarbe de Tyron Gardet. Si vous voulez, autant vous dire que j'attends beaucoup de cette deuxième saison. Enfin, bien qu'elle soit en couple avec le même homme depuis près de 35 ans, non. Oprah, je vous le disais, n'a jamais eu d'enfant. Elle considère ses étudiantes de l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls qu'elle a créée en Afrique du Sud comme ses filles. Je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais pensé que j'aurais des enfants. Maintenant, j'ai 152 filles. Et j'en attends 75 de plus l'année prochaine. C'est une forme de gestation, déclarait-elle en 2016. À quand la Bern Academy ? Il est temps, Stéphane, de donner un coup d'accélérateur à cette carrière. Puisse-t-elle être aussi flamboyante que celle d'Oprah Winfrey, la Cosette de Milwaukee, qui portait des robes en toile de jute, devenue femme la plus puissante du monde, tout en se prémunissant des pièges de la réussite ? Je cite, écoutez bien Stéphane, « Avec le succès, l'arrogance et le mépris viennent taper à votre porte. Ne leur ouvrez pas, car ces derniers précéderont toujours votre ruine et votre chute. » Je ne m'inquiète pas, car je sais Stéphane que comme Oprah, vous n'oubliez jamais que le succès d'une émission est avant tout le fruit d'un travail d'équipe. Vous nous l'aviez merveilleusement prouvé lors de la dernière, la saison passée, quand vous aviez tenté de rendre hommage aux plumes de cette émission. Souvenez-vous.
Je voulais en profiter pour citer les plumes qui ont travaillé avec nous à l'écriture des 420 récits de personnages historiques. Alors, je vais tous vous les citer parce que mes récits leur doivent tout.
Il faut le dire.
Tony Liégeois. Il s'appelle Liégeois, le café Liégeois. Tony Liégois.
Bien joué quand même, Stéphane. Vous êtes comme Oprah, vous êtes resté proche de vos équipes. Et ça, c'est beau.
Oui, vous... Bon, en tout cas, ça, on peut le dire, l'arrogance et le mépris ne franchiront jamais cette
jamais,
porte.
Jamais, non, ça, je le sais.
Merci Mathieu. C'était à 99% vrai, il y a donc 1% de faux, hein, j'ai oui, bien
qui
compté.
Qui ne vous concerne rien, qui ne concerne pas. Tout concerne, est vrai oui. dans cette folle vie.
Mais c'est une vie intéressante.
C'est une vie inspirante, oui, effectivement.
Oui, vraiment. Merci beaucoup Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces femmes qui aimaient faire le show pour retrouver des chroniqueurs qui aussi aiment bien, il faut bien le dire, se mettre en scène.
Ah, surtout David. Oui, Stéphane, chaque après-midi, dans cette dernière demi-heure de l'émission, avant de tous se retrouver pour la lutte finale, ils jettent sur notre quotidien un éclairage nouveau en remontant aux origines d'une invention ou d'une recette, Olivier Pouls.
Oui, on fait voyager en Italie pour vous parler du pesto, des origines du pesto, puis la recette évidemment.
David Castello-Lopez arrive avec une chronique mystère.
Ouais.
La révolution verte. De quoi va-t-il parler ? On en frétille d'excitation. À tout de suite.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi à cette heure-ci remonte aux origines de notre quotidien avec une chronique portée par David Castello-Lopez, le mystérieux David Castello-Lopez. Aujourd'hui, vous nous faites languir. De quoi allez-vous nous parler ?
Donc de la Révolution verte. Je dois vous dire un truc quand même, c'est que moi je suis une personne optimiste. Je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais c'est comme ça, c'est dans ma nature. Je pense dans l'ensemble que ça va bien se passer. Mais j'ai conscience aussi qu'être optimiste, c'est un petit peu dangereux. Parce que si vous dites « je pense que ça va bien se passer » et que finalement ça se passe mal, eh bien vous vous faites défoncer. Alors que le pessimisme, finalement, c'est quoi ? Eh bien l'autre nom du pessimisme, c'est la prudence. On ne reprochera jamais à quelqu'un d'avoir été prudent. Je veux dire, personne ne vous reprochera d'avoir mis votre ceinture de sécurité, même si vous n'avez pas d'accident. Et j'ai presque un peu honte de le dire, mais mon optimisme, il touche aussi des domaines où c'est considéré aujourd'hui comme un truc de FDP, d'être optimiste, comme par exemple l'environnement. Je crois, un peu comme on croit en Dieu, qu'on va trouver une solution, qu'on va pouvoir recongeler la banquise, qu'on va pouvoir écoper la mer qui monte à la cuillère à soupe. Et l'une des choses qui me fait y croire, c'est que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des causes apparemment désespérées trouvent des solutions inédites et impensables. Et c'est l'une de ces histoires que je vais vous raconter, celle de la Révolution verte. À la fin des années 60, il y a un biologiste américain qui s'appelait Paul Ehrlich et qui était assez impressionnant parce que d'une part, il était professeur de biologie à Stanford, ce qui est classe, et en plus, il était ultra beau gosse. Et des professeurs de biologie ultra beaux gosses, ça court pas les rues, je m'y connais. Et Paul, il est célèbre pour avoir écrit en 1968 un livre qui s'appelait « The Population Bomb », la bombe démographique, et qui prédisait, entre autres choses, que dans la décennie suivante, c'est-à-dire les années 70, le monde serait ravagé par une famine sans précédent. Paul, il disait qu'au minimum, il y aurait 500 millions de morts. Et ses calculs, ils semblaient assez justes. C'est-à-dire, je veux dire, il a regardé le taux d'accroissement de la population, il a comparé avec la capacité du monde à nourrir, et il a conclu, on va tous mourir en fait, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et la seule solution pour lui, c'était de faire moins d'enfants. Et son livre, il a eu un succès colossal, il s'est vendu à des millions d'exemplaires, il a fait la couverture des plus grands magazines, et il a été considéré globalement comme un prophète visionnaire beau gosse de l'apocalypse. Sauf que, Paul, il s'est planté, mais planté dans des proportions presque inédites dans l'histoire du plantage. Entre 1961 et 2000, la population mondiale, elle a doublé, deux fois plus de gens. Normalement, le nombre de calories par personne, si on en croit Paul, il aurait dû s'écrouler complètement. Eh bien, il a augmenté de 24%. Dans les années 60, le taux de mort par famine dans le monde, c'était 26 pour 100 000. Dans les années 90, il était tombé à 2 pour 100 000, divisé par 13. Mais alors, comment est-ce que Paul a pu se planter à ce point ? Eh bien, parce qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on a appelé la Révolution verte. Dans les années 40 au Mexique, c'était un peu la merde niveau agriculture au Mexique, à tel point que le Mexique il devait importer du blé pour subvenir à ses besoins. Et là, pour essayer de trouver une solution, le Mexique il a fait appel à un agronome américain modeste qui s'appelait Norman Borlaug. Norman, il était né dans une famille pauvre de l'Iowa, où il avait fait des études brillantes. Et les Mexicains, en gros, ils ont dit à Norman, s'il te plaît, trouve une solution pour augmenter le rendement de nos champs de blé. Et Norman, il s'est mis au travail, il a croisé des espèces les unes avec les autres, et en quelques années, il a réussi à produire plusieurs variétés de blé un peu Superman. Si vous voyez, du super blé, quoi, du Iron Man des blés ou du Superman du blé.
Sans OGM.
Sans OGM. Du blé avec plein de caractéristiques super, mais notamment une qui est facile à comprendre, les épis de blé de Norman, ils poussaient moins haut que les épis habituels. Résultat, ils avaient moins tendance à plier et à tomber sous le poids de leurs grains. Et ça permettait donc à chaque plant de produire plus de grains. En quelques années, la production du blé au Mexique, elle a quadruplé. Les nouvelles variétés, elles ont été importées au Pakistan et en Inde, où ils étaient en méga galère aussi. Pareil, la production a explosé. Ensuite, on s'est servi du même principe avec le riz. La production de riz aux Philippines, par exemple, elle a triplé de la même façon. Et dans les années 80, pour la première fois de l'histoire du monde, les gens, en moyenne sur la Terre, ils ont eu suffisamment à manger. Alors bien sûr, il y a eu des inconvénients à cette révolution verte. La pollution des sols, par exemple, parce qu'il fallait beaucoup de nitrates pour faire pousser les nouvelles variétés de blé. Mais on estime quand même que Norman, le petit agronome né dans une famille pauvre de l'Iowa, il a sauvé des centaines de millions de vies. Pour ça, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1970. Et puis, il a rendu certaines personnes optimistes, comme moi, par exemple.
Comme vous. Et on a donc compris qu'il n'y avait plus besoin de se... s'ennuyer avec le réchauffement climatique. On va trouver une solution scientifique, non, moi, des aérosols
qu'on va envoyer dans
l'espace. J'ai compris.
Je trie mes déchets, je fais attention à ne pas trop prendre non, l'avion. Mais
surtout,
quand même.
On va planter des vignes en Angleterre ou des oliviers. Enfin, voilà,
ouais, et puis il faut dire que sur le blé, justement, il y a une tendance aujourd'hui à vouloir replanter des variétés anciennes, justement, plus hautes, parce qu'elles contiennent moins de gluten.
Ouais.
vous voyez, ça crée d'autres problèmes.
Bon, voilà, on va tous mourir, mais au moins pas de
tolérance au gluten. Planète qui essaye de grossir et l'autre moitié qui essaye de perdre du poids.
Oui.
Allez comprendre. Merci voilà. David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls est prêt à nous raconter l'histoire d'une autre révolution verte, celle du pesto.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Il flotte une odeur d'ail dans ce studio. Certainement la faute d'Olivier Pouls qui nous raconte chaque jour l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du pesto.
Alors le pesto, d'où vient-il ? Il vient du nord-ouest de l'Italie, plus précisément de Ligurie, autour de la ville de Gênes. Alors c'est un habile mélange, on l'a dit, de basilic, de pignon de pin, d'huile d'olive, d'un petit peu d'ail et de parmesan. On trouve les premières traces écrites d'une recette qui ressemble vraiment à ça à partir du 19e siècle dans un dictionnaire. En fait, la recette dérive de préparations que les Romains déjà avaient mises au point avec du basilic, mais qui étaient des préparations qui étaient plus médicinales en réalité que destinées à être vraiment des agréments de cuisine. Les vertus du basilic sont réelles et c'était une plante qu'on utilisait beaucoup en médecine romaine. Ben, aujourd'hui, on l'utilise plutôt en gastronomie. Alors, il est utilisé dans ce qu'on appelle les primi en Italie, ce qui sont
D'abord les antipastis, ensuite voilà, tu passes au primi, ensuite au secondi, voilà. Et ensuite si tu as encore la force, tu tapes une panna cotta. Mais alors, je peux dire que quand tu arrives là, normalement tu es au bout du rouleau.
Les primi, c'est ce qu'on appelle les entrées pour nous, et donc les Italiens, les pâtes par exemple, ou les gnocchi font partie des entrées, des primi.
La pâte bolognaise en entrée.
Voilà, oui, exactement.
Venez en Italie, vous
verrez. Alors, pas bolognaise, mais pas à la ragout là-bas. Autres, hein, et vous avez une petite portion de pasta à la ragout, et ces pâtes, vous les mangez en entrée. Après,
plus
vous tapez
petite quand même qu'une propre portion.
Ça dépend des restaurants. Ah, oui, on peut se faire piéger facilement.
Voilà, et donc la recette aujourd'hui de ce pesto genovese, parce qu'il y a une petite subtilité, vous allez l'entendre, elle est protégée et elle fait d'ailleurs l'objet d'un contrôle strict. Si vous voulez appeler votre préparation pesto genovese, il faut donc tous les ingrédients que je vous ai cités. Mais il y a des variantes. Et dans les variantes, quand vous en achetez par exemple, il faut bien regarder sur l'étiquette parce que vous pouvez avoir à la genovese.
Ah, c'est pas pareil.
Et c'est façon. Et donc là, il y a la tolérance éventuellement de rajouter ou d'enlever des ingrédients et notamment par exemple souvent de rajouter un peu de noix parce que ça donne une certaine onctuosité. Et beaucoup de pesto que vous achetez qui sont industriels, si vous lisez bien, ils sont à la genovese et vous trouvez assez rarement du pesto genovese et qui est l'authentique pesto genovese. Et puis vous parliez tout à l'heure du pesto rouge, qui est le pesto rosso qui existe aussi. Alors lui c'est une variante mais qui n'est pas du tout originaire de la même région. Ça vient de Sicile et de la ville de Trapani. Et ce pesto rosso contient de la tomate séchée, entre autres, mais ne contient pas de parmesan. Et vous posiez aussi, comme ça je réponds à toutes vos questions, la question du pistou, qui est un dérivé, qui est bien connu en Provence, qui est arrivé chez nous. Alors on ne trouve ni pignon de pain, ni fromage dans la recette, c'est ce qui fait la différence. Mais on trouve bien un petit peu d'ail. Et puis vous pouvez vous amuser aussi à faire des pestos avec d'autres feuilles que la feuille de basilic. Et par exemple, un pesto qui marche très bien, c'est les pestos de feuilles de radis. Vous achetez une botte de radis, vous ne jetez surtout pas les feuilles, vous les récupérez et vous utilisez ces feuilles pour faire un pesto. Donc vous allez les mélanger avec des pignons de pin, du parmesan, une petite gousse d'ail écrasée.
Visiblement, si Stéphane vient chez vous et que vous lui faites un pesto avec des feuilles de radis, il sera déçu. Hein.
Et ben, je vous garantis que c'est très bon. Un petit trait d'huile d'olive, vous faites tout ça au mortier avec un pilon. Dans la recette traditionnelle, c'est comme ça qu'on fait, mais vous pouvez mixer si vous voulez. Et vous allez ensuite tremper vos radis dans ce pesto de feuilles de radis. Ah oui, c'est radis, c'est délicieux. Ouais, franchement, c'est très facile à faire.
Rien ne se perd, les fans de radis.
Ah non, les fans de radis, il ne faut pas les jeter.
Moi,
au poule, si vous voulez. Mais faites un petit pesto de fans de radis. La prochaine fois, vous allez voir, c'est vraiment très très bon.
Très bien.
Merci beaucoup, David.
Merci beaucoup, Olivier. Olivier, plutôt.
Oui, David, il est en face.
Pardon, Olivier. Merci, Olivier.
On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, on va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter? C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, Olivier, une question pour vous. Romulus, durant la Rome antique, a fait commencer l'année le 1er avril. Vrai ou faux?
Le calendrier aurait donc démarré en avril, le premier. Ou alors le 1er avril serait le poisson d'avril. Non, c'est aucun rapport avec
je
ça.
Je vous demande pas. Ça, évidemment, tout a une origine.
Non,
tout
je
a
vais
une...
dire faux. Je vais dire
vous
faux.
Dites faux.
Je dis faux.
Eh oui, vous avez raison. Mais il l'a fait commencer le 1er mars.
Ouais, mars, c'est le mois de mon anniversaire, je pense que c'est pour ça.
C'est certainement un lien.
En 153 avant Jésus-Christ, la République romaine décide de faire commencer l'année en même temps que l'élection des consuls, en janvier. Janus, le dieu des débuts et des fins, est un dieu majeur dans la Rome antique.
Alors, point pour Pouls.
David. Victor Hugo habitait la rue Victor Hugo. Mais avant cette rue Victor Hugo, il y avait une autre rue Victor Hugo. Vrai ou faux?
D'accord, donc Victor Hugo a habité rue Victor Hugo?
En fait, c'était avenue Victor Hugo. Victor Hugo habitait avenue Victor Hugo. D'ailleurs, quand il est mort, on dit Victor Hugo en son avenue. Mais avant qu'il y ait cette avenue Victor Hugo, il y avait une autre rue Victor Hugo.
D'accord. Mais donc l'avenue Victor Hugo ne s'appelait pas Victor Hugo à cause de lui?
Si.
À cause de qui, David?
Je sais pas.
Enlevez-lui un point. Mais ça va trop loin.
Non, c'est-à-dire qu'il a eu une rue à son nom,
mais
de
oui,
son
quand
vivant.
On lui écrivait, putain, quand écrivait Victor Hugo, tu mettais Victor Hugo en sa rue.
Il n'y en a que deux qui ont eu ce privilège. Oui. C'est Victor Hugo et Voltaire.
D'accord.
Voilà, habitaient de leur vivant. On avait...
C'était le quai Voltaire?
Oui,
déjà
le quai Voltaire.
Ça, c'est la classe. C'est vraiment la méga classe.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, avant ça, il y avait une autre rue Victor Hugo?
Oui, avant qu'on baptise l'avenue Victor Hugo, avenue Victor Hugo.
Ouais.
Il y avait peut-être,
pénalité,
vrai ou faux,
de temps,
il y
là.
Avait une autre avenue Victor Hugo.
Faut mettre un sablier.
C'est vrai.
Vous avez dit ça au pif.
Bah oui, regardez-le, évidemment, il savait pas qui était Victor Hugo. C'est scandaleux.
Durant la Commune de Paris, pour honorer Victor Hugo, eh bien une partie du boulevard Haussmann avait été rebaptisée avenue Victor Hugo. Eh oui. Puis en 1880, Victor Hugo habitait effectivement avenue Victor Hugo. Ça. Il est d'ailleurs mort avenue Victor Hugo.
Mais comment un fun fact de cette taille stellaire a pu m'échapper, quoi? Putain.
Faut se poser en question, mon vieux.
Ouais.
Alors, les deux sur trois ont bien répondu.
Oui, mais pas complètement par hasard, il faut le signaler, complètement par hasard.
On peut espérer que Mathieu Noël réponde bien à la question qui lui est réservée. Mathieu.
Oui, Stéphane.
Napoléon est plus grand ou moins grand ou fait la même taille qu'Anne-Sophie Lapix?
Je vous en prie, posez-moi des questions d'histoire. Oui. Stéphane, posez-moi des questions d'histoire.
Mais c'est une question d'histoire. Parce alors, qu'on Anne dit Sophie... toujours, ah ben Napoléon, le petit oui. Napoléon
Anne
était petit.
Anne-Sophie est loin d'être petite. En même temps, elle porte souvent des talons. Alors, je dirais que si la personne qui concevait ce quiz avait le talent que je lui prête, je dirais que Anne-Sophie Lapix fait exactement la même taille que Napoléon.
Ah 1m68.
1m68.
Voilà. Merci.
Bonne réponse. 5 pieds 2 pouces, 4 lignes, voilà. 1m68. Voilà. Ben voilà, vous avez tous les trois bien répondu. Donc, il y a la question du départage. Qui va remporter la lutte finale? En quelle année? Ça, c'est vraiment une question historique.
Il faut se rapprocher de la date. Hein.
Il faut se rapprocher de la date. En quelle année a été fondée... Je pense que David a... va avoir une longueur d'avance.
Bon, vu sa rapidité.
En quelle année a été fondée la société japonaise Nintendo?
1972.
1960.
1889.
Non,
yes. Mais ils vendaient quoi?
Des sushis?
Ah non, c'est scandaleux. Mais c'est beau. Bravo, David. Vous avez été plus malin.
Enfin, il est quand même à près de 100 ans près. Pas de quoi être fier.
C'est dire le niveau de cette émission.
C'est vraiment le moins nul. C'est pas le meilleur.
Voilà. C'est pas le meilleur, c'est le moins nul. Voilà.
C'était la lutte finale.
Ah, et bien écoutez, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Il était 100% féminin, puisqu'on a évoqué les destins de trois femmes qui aimaient faire le show. Alors Stéphane, qui d'Annie Oakley, Marity Carpentier, Oprah Winfrey vous a le plus épaté ?
Annie Oakley.
Ah ouais, parce qu'on ne la connaissait pas.
Parce que je ne la connaissais pas. Et dans cette émission, vous savez, on s'amuse, mais j'aime apprendre.
C'est très bien. Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane ?
On réunit des crieurs d'Ernie Cri. Celui qui a fait un célèbre cri en peinture et même plusieurs, ouais. Edouard Munch.
Je crois qu'on dit Munch.
On dit Munch ?
Oui, on dit Munch, ah, je pense Munch. Aussi. Ouais. Oui.
Ah, moi, j'ai dit pas Munch.
Les Norvégiens disent Eva Munch. Munch. Puis Janet Leigh, la comédienne d'Hitchcock dans Psychose, qui a crié si fort que le rideau de douche s'en souvient encore.
Et moi, je vous raconte une figure très médiatique du black metal qui crie encore plus fort, le légendaire Ozzy Osbourne, alias le prince des ténèbres. N'oubliez pas vos bouchons d'oreilles, Stéphane. Ça va dépoter. On se retrouve demain.
À demain, Mathieu. À suivre, c'est Europe Soir avec Raphaël Delvolvé.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.